Bonsoir et bonsoir à tous. Donc voilà mon rêve. Je suis à Paris, plus précisément dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Et je passe une après-midi très agréable d'été ou de printemps, ensoleillée, douce. Et arrive le soir et j'avise un petit bistrot où je décide d'aller dîner. Je dîne, enfin tout se passe très bien, je sors de ce bistrot et je me rends compte que le ciel s'est couvert d'épais nuages noirs alors qu'il avait fait très beau tout l'après-midi et je me dis qu'il faut que je me dépêche de rentrer sinon je vais prendre l'orage. Je sors et la pluie commence à tomber assez dru, enfin des grosses gouttes d'orage espacées. Et je me dis qu'il me reste peu de temps pour trouver un abri avant d'être complètement trempé. Et le seul endroit que je visualise, c'est l'église de Saint-Germain-des-Prés qui, dans mon rêve, comporte une volée de 5 marches pour y accéder, alors que dans la réalité, elle est à plat, quoi. Elle est directement sur le sol. Donc je gravis ces 5 marches, je me plaque contre la porte, le dos contre la porte, au-dessus de laquelle il y a un petit auvent d'une vingtaine de centimètres et je me dis que s'il pleut vraiment fort, ça va pas me protéger longtemps. Et la pluie tombe de plus en plus drue et je m'aperçois que la porte de bois cède sous mon poids. Donc je me dis que c'est incroyable, c'est une chance, je vais pouvoir être protégé, rentrer dans cette église qui devrait être fermée en principe. L'église est plongée dans le noir, donc c'est un peu inquiétant. Et je pénètre dans le sas, mais juste à peine, parce que à cause de cette obscurité. Et sur ma droite, je sens une présence qui me fait sursauter et cette présence s'approche et je suis désolé, je suis un peu vaguement altéré, mais c'est parce que le rêve était très émotionnel. Donc voilà. Donc cette présence s'approche et puis je lui dis, vous m'avez fait peur. Et cet homme qui s'avère être le prêtre de cet endroit me dit, vous m'avez fait peur aussi. Donc on rit, et puis il me dit, écoutez, c'est ridicule, ne restez pas dans le sas, rentrez. J'en profiterai pour vous faire une visite de l'église. Bon, je me dis, l'occasion est bonne, profitons-en. On rentre, au fur et à mesure qu'on avance sur le côté gauche de l'église, il y a des petites lampes qui s'allument et qui éclairent notre parcours. Et je m'aperçois qu'au centre de l'église, qui est toujours plongée dans le noir, il y a des tas de gens, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, qui circulent dans le noir, comme si c'était normal. Et je me dis, mais comment se fait-il que tous ces gens viennent pas là où il y a de la lumière? Bon. On s'approche d'une petite chapelle qui est située sur la gauche. Et il y a une châsse en verre dans laquelle il y a un saint, un cadavre, dont je m'aperçois que en général, dans ce genre de situation, il y a un masque de cire, et là, il n'y a pas de masque de cire. On voit vraiment la décomposition de ce corps et je demande au prêtre de qui il s'agit et ce prêtre me dit c'est Saint François. Alors je lui dis lequel? Il me dit ah, je sais pas, c'est Saint François. Et je m'aperçois qu'en fait ce cadavre n'est pas mort, qu'il bouge et je lui dis il n'est pas mort, il vit. Et cet homme me dit oui, avec un ton très normal. Oui, bien qu'on lui ait cousu la bouche, c'est vraiment affreux comme détail. Une fois par semaine, on le découpe et on le nourrit. On le nourrit avec une hostie. Et la foule présente peut lui poser des questions auxquelles il répond. C'est un genre d'oracle, si vous voulez. Donc je trouve ça assez horrible. Tout en continuant à sourire, ce prêtre dit et vous tombez bien parce que justement ce jour, c'est aujourd'hui. Bon, je me dis, je prends ma place donc, parmi la foule, je vois que ce cercueil de verre s'ouvre, à ce moment-là, la chose qui est dedans prend une figure de plus humaine, c'est-à-dire les vêtements sont plus des loques, ça devient des vêtements normaux, et il a l'air juste de quelqu'un de très fatigué, mais il a plus l'air d'un cadavre, disons. Et en effet, il donne des conseils aux gens, il sourit, il est très avenant, il joue avec les enfants, il joue même de la guitare avec un petit garçon. Tout ça a l'air très bon enfant et en même temps profondément contre nature. Puis arrive mon tour et je m'avance vers lui et je lui demande, n'ayant pas préparé ma question à l'avance, je lui demande est-ce que je suis sur la bonne voie? Ou est-ce que je me trompe, en fait, quelque chose comme ça, je ne me souviens pas exactement des termes. Et il me dit, le saint me répond, je ne peux pas répondre à ta question, il faut que j'en avise comment dit-on, quelqu'un de supérieur à moi. Donc à ce moment-là, lui et moi, on disparaît dans une autre dimension, on se retrouve face à un homme gigantesque à qui le saint dans le cours de ce changement d'espace-temps est devenu une jeune femme saine, c'est-à-dire sans bouche cousue, enfin a complètement changé d'apparence. Et donc le saint, parce que c'est toujours lui, pose ma question à ce géant qui prend une craie et qui écrit la réponse sur un tableau noir sous forme d'équation. Ça remplit tout le tableau noir. Ça a l'air très clair pour eux deux. Et à l'issue de cette conversation par équation, voilà, une fois que ça s'achève, on retrouve notre dimension d'origine. Donc le saint et moi, le saint ayant repris son apparence d'origine, et on se retrouve encerclé par tous ces gens qui étaient dans l'ombre et qui attendent en fait avec curiosité la réponse que le géant a donnée au saint. Et le saint s'amuse avec les gens et dit Ah, vous aimeriez bien le savoir, mais est-ce que je vais vous le dire et tout et tout. Et puis il voit dans mes yeux que j'apprécie pas du tout ce genre de plaisanterie. On se retrouve à ce moment-là suspendu au-dessus des gens sur un fil, mais la position n'est pas inconfortable. C'est juste un moyen de s'isoler, disons. Et il se dirige vers mon oreille et il me dit un mot incompréhensible qui ressemble à Amienki, Kamieni, à quelque chose comme ça que je comprends pas. Et je lui dis pardon, et je lui dis c'est ça ma réponse. Il me fait un sourire mystérieux, et il est aspiré au loin, il disparaît si vous voulez, et j'ai juste le temps de le remercier parce que j'ai de la reconnaissance envers lui, et de lui dire au revoir. Et je me réveille à ce moment-là dans un état très bizarre que j'ai malheureusement je vous ai transmis. Je sais pas pourquoi c'était aussi émotionnel ce rêve très mystérieux. Voilà.
Effectivement, c'est le projet de toute votre vie qui serait contenu dans ce rêve
oui.
et de votre identité.
Pas, par exemple,
Parce que là, on a l'impression qu'actuellement, vous vivez comme un ermite.
Oui, ça c'est vrai, oui.
Et que donc, vous n'êtes ni homme ni femme.
Bon, d'accord.
Et que là, vous avez une réponse qui vous est suggérée, mais qui reste donc quand même énigmatique, parce que là, l'équation est absolument pas claire du tout.
Non. Pour eux, oui, c'était limpide. Pour moi, non.
Oui, parce que là, l'individu, aujourd'hui, Charles, il ne sait pas encore qui il est complètement, et il y a une recherche. Le rêve commence avec ce sentiment de plaisir, de
oui.
la solitude.
Oui, vraiment un vrai plaisir, ouais.
Et puisque là, vous êtes donc dans la force de l'âge, vous êtes à l'été de votre vie, il y a quelque chose de très beau.
Oui.
Mais par contre, vous avez quand même ce sentiment de devoir maintenant chercher un abri.
Oui.
Et donc, la première question qu'on se pose quand cet orage éclate,
oui.
qu'il menace, c'est quand vous entrez dans l'église, c'est de quoi avez-vous peur? De former un couple ou de faire un enfant? Qu'est-ce qui serait le plus difficile? Et est-ce que c'est l'image...
C'est pas quelque chose que je souhaite pour le moment, à vrai dire, pour être honnête. Enfin, en tout cas, de façon consciente.
Oui, parce que donc, il y a une peur qui est exprimée.
Oui.
Et est-ce que c'est le couple parental conflictuel qui vous a un peu éloigné de l'idée du couple?
Je veux pas, je ne sais pas. Peut-être.
Parce que là, quel est cet orage qui menace, qui gronde? Est-ce que c'est la voix tonitruante du père? Est-ce que c'est le climat qui régnait dans le couple?
C'est-à-dire, en fait, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas été élevé par mes parents, donc je les connais, hein, mais je veux dire, c'est pas eux qui m'ont. Donc du coup, ça m'est un peu, pas indifférent, mais un peu étranger.
Alors, je ne sais pas qui a pu faire office de parent, mais il y a quand même des représentations qui sont évoquées dans le rêve avec
oui.
la peur.
Oui, tout à fait, oui. Ouais, oui, oui, absolument, oui.
Et donc, quand vous entrez dans cette église, c'est d'abord un désir nuptial, puisque là, ce sont les marches de l'autel que vous franchissez aussi, puisque vous ajoutez des marches à Saint-Germain qui est de plein pied. Donc, on peut considérer que ce seraient les marches de l'autel. Quand vous entrez dans cette église, vous rentrez dans la dimension du féminin, du ventre féminin, avec un désir d'union, mais en même temps une appréhension, puisque vous ne savez pas encore qui vous êtes.
Peut-être.
Et là, cet homme que vous voyez, cette espèce de géant, ce titan, c'est l'image du patriarche idéalisé, c'est-à-dire de cette puissance masculine dont vous seriez à la recherche.
Peut-être.
Et là, on a une espèce d'archétype très fort qui, effectivement, montre que le père ne vous a pas transmis sa puissance. Il reste un archétype, il reste une entité très très difficile d'accès et qui parle par équation.
D'accord.
Et donc, il n'y a que quand vous êtes dans cette identification féminine
oui.
que vous avez accès au père.
Okay.
Et quand vous êtes identifié masculin, vous n'avez pas accès au père.
Ça voudrait dire que je serais le saint qui
Tout
deviendrait,
à fait.
Changerait d'identité suivant la dimension dans laquelle il se trouve, c'est ça?
Tout à fait.
D'accord.
Et donc là, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a une certaine partie de vous qui est restée dans le ventre de sa mère.
D'accord. La partie laquelle partie le, à cause du cercueil en verre, c'est ça?
Oui, puis le fait que vous soyez dans la matrice, dans la cathédrale, que okay. vous soyez donc un saint, donc qui n'a effectivement pas de vie dissolue.
Un saint avec la bouche cousue, alors à ce moment-là,
oui.
en plus.
Et donc le sexe cousu aussi, donc pas d'ouverture.
Oui. D'accord. Ok. Bon.
Et... Voilà, il n'y a que quand vous êtes effectivement dans cette perspective féminine de votre devenir, de
oui.
vous-même,
oui.
que vous avez accès à l'archétype du père, mais ce n'est qu'un archétype. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rencontre avec le père, il n'est pas là.
Donc ça veut dire que dans tous les cas, il s'agit d'un leurre, quoi.
Non, c'est plutôt une puissance rayonnante que nous avons tous en nous,
oui.
puisque l'enfant porte en lui l'image du père,
oui.
de ce patriarche qu'il aimerait avoir. Mais quand ce père n'est pas accessible, donc soit effectivement parce que vous n'avez pas été élevé par lui, soit parce que le père est courroucé, soit parce qu'il ne sait pas parler autrement qu'en équation,
oui.
ça reste une entité qui est idéalisée mais qui n'a pas de forme tangible.
D'accord.
Et donc pour que l'enfant puisse identifier, l'enfant mâle puisse identifier au père, il a besoin que le père soit accessible, qu'il fasse transmettre des messages clairs.
D'accord.
Et qu'il ait à un moment donné une capacité d'écoute et de communication avec lui.
Oui.
Et là, on a l'impression que ça ne s'est pas fait du tout, donc même qu'il n'y a pas eu de substitut à cette image du père.
Non.
Donc je ne sais pas qui vous a élevé, si ce sont vos grands-parents.
Enfin, en tout cas, il n'y a pas eu de remplaçant, en effet.
Et par contre, l'image de la mère est omnipotente et omniprésente.
Parce que j'ai été effectivement entouré de femmes fortes et dans le bon sens du terme, et vivantes. En effet, c'est vrai, ouais.
Et donc là, il est possible qu'il y ait une identification au féminin qui se soit faite
Oui.
de façon très forte, mais là, vous n'osez pas entrer complètement dans cette dimension.
Bah forcément, puisque je suis pas une femme, enfin, biologiquement en tout
Oui,
cas.
biologiquement, mais vous auriez pu choisir la polarité féminine et développer une sexualité autour de cette polarité féminine. Non, on a l'impression que même là, vous n'y arrivez pas.
Oui, c'est vrai, ouais. Enfin, c'est pas ce que j'ai, jusqu'à nouvel ordre, c'est pas ce que j'ai choisi, c'est vrai, ouais.
Et donc l'équation n'est pas résolue. Donc je ne sais pas exactement quel est ce terme qui est utilisé, mais
Moi
il
non
semblerait
plus.
que ce soit la clé.
Ben voilà, c'est ça l'ennui, c'est que c'est incompréhensible.
Donc quelle est la solution? Là, il y a certainement une solution qui est proposée dans le rêve. Est-ce qu'il y a une image qui vous touche particulièrement? Puisqu'à un moment donné, quand vous entrez dans l'église, c'est d'abord une image du Père accessible que vous rencontrez.
Oui, mais qui est gâché tout de suite par son discours sur le fait que c'est normal de tenir dans cette chasse de ver un cadavre qui en fait n'en est pas un, qu'on le nourrit qu'une fois par semaine, qu'on l'utilise pour un petit peu comme une chose de foire pour aider les gens, et que tout ça est brillant, normal et très rigolo. Et moi, j'ai vraiment une impression, un sentiment de dégoût profond quand je vois tous ces gens qui se ruent autour de cette chose, enfin de ce saint, quoi. Et lui, il est complètement disponible, complètement, il prend tout. Et
Bah, c'est un...
je trouve ça répugnant. Enfin,
Oui, mais c'est donc une partie de vous-même qui est décrite ici.
peut-être.
Et vous êtes certainement un peu trop au service des autres.
Je sais pas.
Tout en étant un ermite, il semblerait que vous soyez trop au service des autres.
Mais je sais pas quelle est l'image la plus forte, enfin en tout cas la plus forte en positif, c'est celle du début évidemment, qui contrebalance, pas, enfin qui est presque aussi forte en sensation de plaisir, disons, enfin pas de plaisir non, de bien-être que quand je suis dans les rues, que je me promène, que voilà. Que la sensation de mal-être que j'éprouve quand je rentre dans cette église, en fait. Au fond, j'ai pas envie d'y rentrer dans cette église,
Mais
finalement.
là, c'est quand même intéressant d'aller retourner dans ce ventre pour que ce saint en ressorte et qu'il puisse avoir une vie moins monacale.
Ouais, en tout cas, ce qui est amusant pour l'anecdote, c'est qu'il y a quelques jours, j'étais à Saint-Germain-des-Prés, il était tard, et je me suis rendu compte que cette église était ouverte parce qu'il faisait des installations pour un spectacle ou une chorale, Dieu sait quoi. Donc j'y suis rentré. Cette chapelle existe, j'ai dû y aller probablement au moins une fois dans ma vie à l'intérieur quand je m'en souviens plus, et qu'il y a une chapelle avec une gigantesque statue de Saint François sur la gauche, exactement comme dans mon rêve. Bon, je suppose que c'est anecdotique, mais j'étais scotché.
Quand on rentre à Saint-Germain, elle n'est pas sur la droite, la grande chapelle plutôt?
C'est pas une grande chapelle, c'est une petite chapelle en demi-cercle, quoi. Il y en a
D'accord, ok.
C'est une petite chapelle où il y a par ailleurs un tombeau, qui est le tombeau de Saint Casimir, je crois, roi de Suède et de Pologne. Voilà. Et dans cette même chapelle, il y a la statue de Saint François-Xavier. Voilà.
Ok, donc là...
C'est anecdotique, mais ça m'a fait un drôle d'effet, quoi. Voilà.
En tout cas, il y a beaucoup de saints.
Pardon?
Saint-Germain, Saint-François, ça fait beaucoup de saints.
Oui, mais donc en substance,
Alors,
qu'est-ce que je peux tirer de constructif de ça, à part
que ce qui vous
le
dégoûte,
désastreux réveil que ça m'a procuré, l'impression vraiment désagréable que j'ai eue à mon réveil,
que
quoi.
ce qui vous dégoûte, c'est ce que vous avez choisi.
Oui, peut-être.
Puisque c'est un enfermement volontaire qui est décrit. Le Père ne fait que décrire un processus que le saint a choisi.
D'accord.
Mais ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez une image du Père qui est accessible et qui est en communion avec vous.
Ok.
Et donc, il semblerait que ça passe par là. Donc, soit c'est une invitation à faire un travail sur vous-même, à choisir des identifiants masculins,
Ouais.
soit ça veut dire que ce travail est déjà commencé.
Ouais. D'accord.
Et donc, si c'est un thérapeutome que vous voyez par exemple, il pourrait vous servir d'image de substitution du père. Et qu'un transfert serait intéressant. Le transfert est une projection des qualités que nous avons en nous sur l'autre.
Ouais.
Puisque la recherche affective que nous avons du parent, c'est, vous le voyez dans le rêve, c'est cet archétype hyper rayonnant qui est représenté par ce patriarche titanesque.
Oui.
Et donc ces images, nous les avons en nous et nous savons à peu près dans quel sens les autres doivent être quand ils sont nos parents, mais aussi, plus tard, dans quel sens nous avons envie de nous développer.
D'accord.
Et donc, quand ce prêtre intervient, déjà c'est une image de père qui est accessible.
Oui.
Et ça peut correspondre donc au thérapeute que vous choisiriez ou que vous voyez déjà.
D'accord.
Et sur lequel vous pourriez faire un transfert passager pour aller ensuite vers l'acquisition des qualités que vous projetez sur le thérapeute.
Ok, juste en passant, mon thérapeute n'est pas un homme. Du tout. Et jusqu'à présent, j'en suis plutôt content, je dois dire. Mais, donc,
alors, on peut faire aussi un transfert, c'est possible, hein, du père sur la thérapeute, mais c'est peut-être ce qui vous gêne dans le rêve. C'est à ce moment-là, cette identification que vous feriez quand vous devenez femme, quand le sein devient femme.
Mais ça me gêne pas dans le rêve. C'est quelque chose de complètement ordinaire. Enfin, ça n'a pas. C'est complètement normal. Enfin, j'ai pas. Ça ne me surprend pas, ni dans l'autre. Je suis pas étonné.
Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, mais c'est là où effectivement le transfert peut ne pas être complet.
Et donc?
Et donc, l'identification se fait au féminin à ce moment-là.
Oui, vous pouvez continuer, enfin, s'il y a autre chose à dire sur ce chapitre.
Non, c'est-à-dire que si, bon là, je ne vous recommande pas spécialement d'aller voir un homme, si effectivement le travail fonctionne très bien avec cette femme, autant le continuer avec elle, mais c'est peut-être là où il y a un sentiment de frustration, c'est que cette image de père n'est pas assez forte, et vous êtes obligé donc de passer par l'image de transfert féminine, quand vous vous identifiez au sein.
Oui.
Qui devient une femme quand il a accès à l'archétype du père.
D'accord, je comprends. D'accord.
Mais si vous êtes très bien dans ce travail, autant le continuer, il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Mais là, on voit que ce travail est en cours et qu'il commence par l'entrée en vous-même dans le ventre de la mère.
D'accord, ok. Ouais. Et par rapport aux marches, vous... Enfin,
je vous disais, pour moi, ce sont les marches de l'autel, la recherche de la forme nuptiale.
Donc de former un couple, quoi.
Et peut-être de former d'abord un couple avec vous-même.
D'accord, ok. Ouais.
Mais là, il y a un désir de ne plus être seul et d'être à l'abri de la dépression.
D'accord, ok.
Il y a un fond de dépression qui intervient, donc on pourrait dire qu'il y a quand même un côté un petit peu bipolaire chez vous.
Oui.
Avec des états donc d'euphorie et des états de down, de dépression.
Je connais des gens bipolaires.
Très légèrement. Hein.
Ouais, d'accord, ok. Ok, d'accord. Et les gens dans le noir?
C'est votre ressenti du monde et c'est aussi peut-être là l'endroit où vous avez le plus de représentations positives de vous, c'est par votre intellect.
Pourquoi positive?
Parce que vous avez la certitude que votre intellect est en lumière.
D'accord.
Et que cette partie-là de vous fonctionne très très bien. Donc vous êtes plus intelligent que les autres, si vous préférez.
Ça serait une opinion, je me ferais une haute opinion de moi, c'est ça?
Non, mais ça veut dire qu'elle soit fausse.
D'accord, ok, très bien.
Non, c'est dans le rêve, il n'y a pas de prétention dans le rêve. Hein.
D'accord. Bon, très bien.
Et que là, ça peut correspondre au travail de thérapie, vous suivez un chemin qui est éclairant.
D'accord, ok.
Parce que là, il faut quand même voir que ce travail... fonctionne, il vous amène à rencontrer des formes extrêmement fortes. Et on peut penser donc à des archétypes qu'on peut trouver dans, je ne sais pas si vous avez lu Ma vie de Jung.
Non.
On rencontre donc des rêves chez Jung qui ont à peu près cette forme très très forte, avec des formes totémiques.
D'accord.
Parentales.
Bon, bon. Très bien. Bah écoutez, je vous remercie, c'était très parlant en tout cas, très éclairant.